Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonjour et bienvenue au grain de sable, émission d'Atacrone. Donc ce soir, on a décidé de vous parler un peu de la dette. Alors, on va essayer de savoir ce qu'est la dette, et si effectivement on est bien dans ce que nous dit à longueur de journée dans les médias, qu'on vit au-dessus de nos moyens, qu'on n'a pas les moyens de rembourser cette dette, et qu'il faut faire des coupures drastiques dans les dépenses de l'État. Donc pour ce faire, on a invité Robert Joumard, qui est membre d'Atacrone, et qui fait aussi partie du collectif pour l'audit citoyen de la dette, qui a été créé à Lyon, depuis décembre à peu près 2011. Donc il a élaboré un gros travail sur cette dette justement, donc il va nous dire ce qu'est cette dette et comment ça fonctionne. Bonjour Robert.
Oui, bonjour. Eh bien, la dette de l'État, bon, quelques chiffres peut-être en gros, elle est importante, hein, particulièrement la dette publique, c'est pas seulement la dette de l'État, mais c'est quand même essentiellement la dette de l'État pour 89%. Il y a un petit pourcent pour les autres organismes publics nationaux, mais ça, c'est pas grand-chose. Il y a 9% pour les collectivités locales, les communes, les hôpitaux, etc. Et puis 11% pour la sécurité sociale. Donc la dette publique, c'est essentiellement la dette de l'État. Et un ordre d'idée de la dette publique, c'est 92% du PIB. Le PIB aujourd'hui, alors c'est un peu plus de 2000 milliards d'euros. Donc la dette publique, c'est 1900, un peu plus de 1900 euros, 1900 milliards d'euros. 1940 milliards d'euros. Donc cette dette publique, elle est très très importante. Elle a un coût qui est aussi très très élevé. Un coût qui est, il y a deux coûts. Il y a d'une part le coût, le remboursement des intérêts chaque année, hein. D'une part, et d'autre part, le remboursement du capital, de l'amortissement. Et ce coût, il est quand même, en ce qui concerne uniquement l'État, il est très très important, parce qu'il fait à peu près 130 milliards d'euros par an, en 2013. Et 130 milliards d'euros, alors ça ne dit pas grand-chose, mais 130 milliards d'euros, c'est pratiquement le coût de 3 millions d'emplois en France, hein, quand on compte le salaire direct, ce que reçoivent les salariés, et puis le salaire indirect... avec tout ce qui est pour payer la sécurité sociale, la retraite, etc. Donc quand même, 3 milliards d'emplois, c'est pas rien.
Est-ce bien vrai qu'on n'a pas les moyens de payer cette dette et qu'il faut qu'on arrête de dépenser des sous parce qu'on vit au-dessus de nos moyens? C'est ce qu'on nous dit à longueur de temps.
Quand on dit ça, ceux qui disent ça disent en même temps ou le laissent entendre qu'on dépense de plus en plus. C'est-à-dire que les dépenses de l'État ont explosé et que les recettes n'arrivent pas à suivre. Donc, il faut absolument diminuer les dépenses parce que la dette est une question de dépenses. On dépense trop, et d'une part. Et puis, ils disent par ailleurs aussi que les recettes de l'État, ce sont beaucoup trop importantes. Hein. Ils disent par exemple que les prélèvements obligatoires des administrations publiques font pratiquement... près de 50% du PIB, ce qui laisse entendre à la plupart des gens, pour la plupart des gens, eh bien, qu'il reste que le reste, hein, les 50% du PIB restant, c'est ce qui reste pour nous, pour les entreprises. Mmh. Ce qui est stupide, qui est totalement stupide. Alors, et ce qui est inadmissible, c'est que les gens qui parlent, qui insistent sur ces prélèvements obligatoires qui font 45-50% du PIB, laissent entendre ça sans jamais dire que c'est stupide. Mmh. Et c'est stupide parce que, pour une raison très simple, hein, c'est que les prélèvements obligatoires, c'est le budget de l'État, de l'État et des autres administrations publiques. Et quand on regarde le budget des entreprises, par exemple, il est plusieurs fois, il est équivalent à plusieurs fois le PIB. Donc un budget et un PIB, c'est pas la même chose. Ouais. Le chiffre d'affaires d'une entreprise et sa valeur ajoutée, la richesse qu'elle crée chaque année, c'est pas la même. On peut pas comparer les deux. Hein, c'est pas donc ok, on a des prélèvements obligatoires qui font 45% du PIB. Bon, eh ben, on ne peut strictement rien en déduire. Hein. Mmh. Alors il laisse entendre donc que les recettes sont un peu trop importantes et puis que les dépenses sont elles toujours en croissance. Ça c'est faux. Quand on regarde en ce qui concerne l'État c'est donc l'essentiel de la dette. Quand on regarde la situation de l'État, l'évolution de la situation de l'État, on se rend compte que les dépenses ce qu'on appelle les dépenses de l'État, c'est-à-dire les dépenses qui servent au service public, plus le remboursement des intérêts, mais pas le remboursement de l'amortissement, donc du capital emprunté. Donc les intérêts de la dette, plus ce qui sert au service public, sur 35 ans, les 35 dernières années, ça a baissé à peu près d'un point de PIB. Alors, un point de PIB,
d'accord, c'est... Donc on n'a pas une augmentation de la dépense, contrairement à ce qu'on...
Une baisse de la dépense. Et quand on regarde les dépenses de service public, lorsqu'on enlève à ces dépenses-là, tout le remboursement des intérêts de la dette, on a eu une baisse de 2 à 3 points de PIB, encore plus faible. Mais quand on regarde les recettes de l'État, sur 35 ans, ont baissé de 5 points. De 5 points de PIB. 5 points de PIB, c'est énorme, hein, ça fait à peu près 2 millions d'emplois. Donc les recettes de l'État ont chuté, elles n'ont même pas baissé, elles ont chuté. Donc faire croire, en restant un petit peu dans le vague, parce que les dépenses sont trop élevées, qu'on a une dette, non. On a une dette parce que les recettes n'ont pas suivi la baisse des dépenses. Les dépenses ont baissé, mais les recettes ont chuté beaucoup plus. Hein, donc c'est parce que les recettes ne sont pas assez importantes, parce qu'elles ont été diminuées volontairement. C'est la raison fondamentale de la dette publique.
D'accord, c'est des diminutions de recettes qui ont été décidées délibérément, enfin politiquement, c'est des choses qui
sont... Ça a été décidé par les gouvernements Jospin, Chirac, et notamment, et Sarkozy encore plus, hein, mais tous ces gouvernements-là ont baissé les recettes fiscales et les recettes sociales aussi, par notamment des diminutions d'impôts pour les personnes les plus riches et pour les entreprises les plus importantes, qui sont extrêmement importantes. On évalue aujourd'hui... Alors ces cadeaux fiscaux, ils ont été... c'est pas Attac qui le dit, mais les cadeaux fiscaux, le montant des cadeaux fiscaux depuis l'an 2000 ont été évalués par un rapport parlementaire qui est sorti en 2010 ou 2011. Et quand on actualise en 2013 ces cadeaux fiscaux, on arrive à 66 milliards d'euros en 2013, un petit peu plus, 72, 75 en 2012. Donc en gros, retenons 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros, c'est loin d'être négligeable. Hein. Donc 70 milliards d'euros qui chaque année ne viennent pas dans les caisses de l'État. Mmh. Et ça, ce sont des décisions politiques, ce qui fait dire que la dette, elle est réellement construite. On va voir tout à l'heure qu'elle est... Elle est construite pour d'autres raisons, mais elle est notamment construite par cette baisse des recettes fiscales, cette baisse volontaire des recettes fiscales.
On peut faire la comparaison avec un particulier qui aura une dette et son salaire qui diminuerait, en fait. C'est un peu ça.
Ça revient à peu près à ça. C'est-à-dire qu'on baisse le salaire de la personne et après on dit, ah, il peut pas rembourser sa dette. Oui.
Et comme d'autres manques à gagner, là, qu'est-ce qu'il y a à part les cadeaux fiscaux?
Alors, sur les manques à gagner, il y a, donc ça, c'est quand même le principal, mais il y en a un autre qui est plus ancien aussi, qui est l'évasion fiscale. Alors, ça a été notamment travaillé par un économiste qui s'appelle Zucman, qui a sorti un petit bouquin très intéressant en début d'année 2014, sur l'évasion fiscale et le secret bancaire, qui montre qu'il n'a modélisé que l'évasion fiscale des particuliers et pas des entreprises due au secret bancaire. Et il arrive en 2013 à un coût, en 2013, pour les recettes publiques, de 17 milliards d'euros. Et quand on cumule cette évasion fiscale, donc l'évasion fiscale, ça consiste quoi? Ça consiste à placer de l'argent dans des banques à l'étranger, ce qui n'est absolument pas illégal, ce qui est tout à fait légal. Par contre, ce qui est illégal, c'est de ne pas le déclarer au fiscal. Et ça, c'est possible, c'est rendu possible par le secret bancaire, puisqu'on n'a pas le droit, jusqu'à présent, ça devrait changer maintenant, les banques n'avaient pas le droit de dire quelles étaient les entrées et les sorties aux États qui leur demandaient. Donc ça fait 17 milliards en 2013, mais ça dure déjà depuis 1970, hein. Ça a cru en valeur depuis 70, mais ça fait depuis longtemps. Donc ça a eu un impact quand même aussi très important sur la dette, parce que ça se cumule. Quand vous avez une perte de recettes fiscales, ça a deux impacts sur la dette. Premier impact, c'est que cette perte, il faut la compenser par un emprunt. Hein, ça, c'est l'impact direct. Mais le deuxième impact, c'est que l'année d'avant, lorsqu'on a emprunté pour compenser cette perte de recettes, on va payer des intérêts sur ce qu'on a emprunté. Donc il y a d'une part la perte sèche, disons, nette, hein, directe, hein, de recettes, et puis d'autre part les intérêts qu'on paye sur ce qu'on a emprunté pour les pertes des années précédentes. Et ça se cumule donc au cours des années, ce qui fait que c'est très important pour avoir une idée assez précise, relativement précise, de l'impact de perte de recettes fiscales sur la dette, d'avoir des données sur une longue durée, sur 10, 20, 30 ans. Hein. Ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les cadeaux fiscaux, on a déjà quelques années de recul, et aussi sur l'évasion fiscale, où grâce à Zucman, on a des données sur une longue durée maintenant.
Donc, est-ce que tu nous disais au collectif, là, c'est que finalement, au bout de tant d'années, si on n'avait pas eu ces cadeaux fiscaux, enfin, si ces entrées d'argent avaient été effectuées, la dette serait quasi nulle, peut-être même
alors,
négative.
Pas uniquement avec les cadeaux fiscaux. Ouais. Hein. Il y a eu, moi, j'ai participé un petit peu à une étude, enfin, une note, un audit de la dette publique. Faite au niveau national par le collectif pour un audit de la dette publique, hein, qui a sorti un rapport en mai dernier, et qui montre que 59% de la dette publique actuelle est due d'une part aux cadeaux fiscaux, d'autre part à ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Alors, l'effet boule de neige, c'est un autre mécanisme de la dette. C'est lorsque les intérêts de la dette sont très élevés. Alors, soit qu'ils sont particulièrement élevés, ce qui a été modélisé dans le rapport de du collectif national. Donc, particulièrement élevé, ça veut dire, lorsqu'on a, hors l'inflation, plus de 2%. Parce qu'historiquement, les intérêts des dettes sont en moyenne de 2%. Lorsqu'on dépasse 2%, eh bien, on arrive en 2012, cet effet boule de neige, donc ces intérêts très élevés, qui vont évidemment... Ils partent pas dans le ciel hein, ou dans la mer, ils vont dans la poche de ceux à qui on emprunte, hein, c'est-à-dire des gens les plus riches dans le monde, pas forcément des Français. Ça équivaut à 18 points de PIB, hein, 18 points de PIB pour une dette publique qui fait aujourd'hui 92% du PIB. Hein. Donc c'est une part importante. Et moi je l'ai modélisé, mais d'une manière un petit peu différente, en modélisant, en regardant l'impact des intérêts de la dette lorsqu'ils sont supérieurs au taux de croissance. Hein, parce qu'on montre mathématiquement que lorsque les intérêts de la dette publique sont supérieurs au taux de croissance, la dette ne peut qu'augmenter parce que les recettes de l'État augmentent avec le PIB, proportionnellement au PIB. Mais si les intérêts augmentent plus que le PIB, eh bien l'État est obligé d'emprunter pour rembourser ses intérêts. Et moi j'arrive à 40 points de PIB en 2013 cette fois, hein, 40 points de PIB sur une dette de 92 points de PIB, donc ça fait en gros 45% de la dette actuelle. Hein. Donc cet effet boule de neige est très 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 important. Je me suis trompé. L'effet boule de neige, c'est seulement là ce que j'ai dit. Les chiffres que j'ai donnés de 18 points et de 40 points, c'est pour les cadeaux fiscaux. Hein, et puis pour l'effet boule de neige, donc les intérêts très élevés, c'est autour de 25 à 30, 35% à peu près.
Et c'est la somme des deux qui fait 59%.
Alors la somme des deux, ça fait 59%. D'accord. Alors à peu près ouais, 59%, enfin, ça dépend de la manière dont on calcule, etc. Mais ça fait 59%.
C'est-à-dire que c'est ce que la conclusion de ce rapport qui dit qu'il y a 59% de la dette qui est illégitime, donc qu'on ne devrait pas rembourser.
Tout à fait. Alors ce que rajoute aussi le rapport, c'est qu'il y a... Au-delà des calculs qui a été fait dans ce rapport, il parle aussi donc de l'évasion fiscale, donc c'est les 17 milliards, et il parle aussi de l'impact de la crise économique, et financière. Pourquoi la crise économique et financière serait-elle responsable de la dette? Pour une raison assez simple, c'est que les recettes fiscales, les recettes des administrations publiques sont proportionnelles au PIB. Donc lorsque le PIB augmente, les recettes augmentent. Lorsque le PIB baisse, les recettes baissent. Et lorsqu'on... Le PIB, à partir de 2008, a chuté, hein, pas mal, hein, ça, à cause de la crise économique et financière, qui est due à la spéculation, pour l'essentiel.
Alors que la dette, elle, continue à grimper.
Donc les recettes de l'État ont baissé à cause de la crise, ont baissé quand même significativement, hein, uniquement depuis quelques années, mais pour une quantité une somme qui est énorme, qui est de l'ordre de 70-80 milliards d'euros. Hein, donc c'est loin d'être négligeable. Hein.
C'est un point de PIB, ça fait quoi ça? Ça fait
un point de PIB, ça fait 20 milliards d'euros.
20 milliards, ouais.
Ça, fait, ça fait à peu près 20-21 milliards d'euros. Donc là, ça fait 3-4 points de PIB. Donc c'est très très important, mais sur une durée relativement courte.
Quand on parle de points et de pourcents, c'est la même chose, on est d'accord, non ?
Oui, un point de PIB, c'est 1% de PIB.
D'accord, parce que des fois on dit points, des fois on dit pourcents, mais c'est la même chose.
Parce qu'on utilise le terme point, c'est une valeur, à la fois une valeur relative, parce que c'est des pourcentages du PIB, mais c'est une valeur absolue. C'est pas, quand on dit une variation de 3%, ça fait penser que...
ça dépend de du PIB.
Ça pourrait être des pourcents de pourcents. Ouais. Et là, c'est pas des pourcents de pourcents. Hein, c'est une baisse absolue de N pourcents, de tant de pourcents de PIB. Donc, on dit tant de points.
D'accord. Donc, mais toi, tu, par rapport à ces 50%, tu considères que, en fait, il y en a plus qui étaient légitimes.
Ben, il y en a plus parce que il faut bien voir que le travail qu'a fait le collectif national, c'est le premier audit de la dette nationale qui a été fait en France. Donc, c'est un petit peu un coup d'essai. Hein. Il va être poursuivi. Donc, jusqu'à présent. Pour différentes raisons, pas forcément très claires, un peu théoriques et pas très claires, mais je pense qu'ils vont évoluer, n'ont été modélisés de manière précise que l'impact des cadeaux fiscaux et l'impact de l'effet boule de neige, donc des taux d'intérêt très élevés. Et là, on arrive à ces 59% de dette publique. Mais je pense pas qu'il y ait d'impossibilité théorique, et encore moins pratique, bien sûr, pour modéliser aussi l'impact de l'évasion fiscale et l'impact de la crise économique sur la dette elle-même, sur la dette publique. Parce qu'on peut très bien ajouter évasion fiscale, impact de la crise économique et cadeaux fiscaux, parce que c'est trois pertes de recettes fiscales ou de recettes des administrations.
Je propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis on reprendra après l'explication sur le reste des choses qu'on peut rendre illégitimes dans cette dette.
Complici, più che due amanti siamo complici, finiti ormai gli slanci facili, sappiamo troppo di noi due. E non parliamo più. Complici, intrecci d'alibi reciproci. Siamo persone sole. Che non si amano più. Come fu? Sono stata
on voulait peut-être approfondir un peu tout ce qui est cadeaux fiscaux, les niches, les baisses d'impôts, enfin tout ce que parce qu'on est passé un peu vite en disant que c'était des cadeaux, mais on peut peut-être parler un peu dans le détail.
Les cadeaux fiscaux, ça touche très peu de monde, ça touche pas la plupart des Français qui payent ou qui payent pas d'impôts sur le revenu. Non, pas de cadeaux fiscaux, c'est pas eux qui ont les cadeaux fiscaux. Ouais. Les cadeaux fiscaux touchent, pour l'essentiel, touchent les gens qui ont des revenus très élevés, notamment par la baisse du taux maximal auquel sont imposés les revenus des personnes et des familles. Hein. Alors le taux d'imposition maximal ou marginal, lorsqu'on a beaucoup baissé en France et dans le monde, et en Europe en particulier. Hein. Par exemple, dans les années 1990, il était à 58-59%. C'est-à-dire quand vous gagnez énormément d'argent, la tranche supérieure de votre revenu était taxée, imposée à 58-59%. Aujourd'hui, c'est tombé à 50%, et ça a même été au début des années, en 2005, 2007, 2010, c'est même tombé à 46%. Okay. Et ça a baissé beaucoup. Que ce soit quand on tient compte des impôts nationaux et des impôts des collectivités locales qui sont partiellement basés sur les revenus. Et ça, c'est vrai pour la France, mais c'est vrai aussi pour l'Union européenne où le taux d'imposition maximale est plus faible, mais là aussi ça a baissé et ça s'est passé pour l'Union européenne à 27, c'est passé de 47% à peu près à 37 à peu près, donc ça a baissé. Non, donc ça c'est la deuxième manière de faire baisser les impôts, c'est de modifier les tranches. Et les tranches se sont beaucoup élevées, c'est-à-dire pour atteindre ces pourcentages maximum un petit peu élevé, même s'ils ont beaucoup baissé, eh bien il faut gagner de plus en plus. Des gens qui ou des familles fiscales qui auraient un revenu équivalent à celui qu'ils avaient et qui gagnent beaucoup à ce qu'ils gagnaient il y a 40 ans, paieraient beaucoup moins d'impôts aujourd'hui.
D'accord.
Alors ça, c'est vrai pour les particuliers, mais c'est vrai aussi pour les entreprises. Les taux d'imposition des entreprises ont énormément baissé en France, en Europe et ailleurs aussi dans le monde. C'est passé... En France, c'est passé par exemple de 45 à 33%, le taux normal d'imposition des bénéfices des sociétés. Ça, c'est le taux normal théorique. Mais le taux réel est très différent. Le taux réel dépend beaucoup de la taille des entreprises. Alors, les petites entreprises de quelques employés payent, quand on fait le rapport entre ce qu'elles payent et ce qu'elles ont comme bénéfices, eh bien, les petites entreprises payent 28% de fait, et les entreprises du CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grosses entreprises cotées en France, ne payent que 8%. Alors c'est pas parce qu'elles ont des tas de manières légales
de passer
à travers l'impôt, elles se payent des conseillers fiscaux très performants, qui les font bénéficier de tas de niches fiscales diverses et variées. Et ça, c'est sans tenir compte, par exemple, du fait qu'on permet aux entreprises d'exporter leurs bénéfices. Les entreprises travaillant en France, faisant des bénéfices en France.
Elles déclarent leurs bénéfices
dans d'autres
pays.
De fait, elles déclarent leurs bénéfices à l'étranger.
Ou c'est plus avantageux au niveau fiscal.
Déclarer les bénéfices, c'est pas tellement déclarer les bénéfices, c'est une entreprise qui produit des chaises en France, par exemple. Eh bien, elle produit sa chaise pour 10 euros, mettons. Donc elle va vendre sa chaise qui lui coûte 10 euros en France, avec du travail de salariés travaillant en France, elle va le vendre 10 euros, sans aucun bénéfice, à sa filiale par hasard dans un paradis fiscal, elle va le vendre 10 euros, et sa filiale, elle, va le revendre à des importateurs en France, alors pas 10 euros, elle va le revendre 15 ou 20
euros.
C'est elle qui fait le bénéfice. Ouais. Mais c'est la même boîte, c'est une filiale qui appartient à la même boîte.
C'est une technique.
Donc le bénéfice, il est déclaré, non pas en France, mais il est déclaré dans le paradis fiscal. C'est
donc
une manière
imposer,
tout à fait légale de ne pas avoir de bénéfice, et donc de payer encore moins d'impôts. Sur les bénéfices réels en France. Alors il y a de multiples méthodes de ce...
Et ça, on peut l'évaluer, le montant de
cette... Oui, le montant, c'est ce que je dis tout à l'heure, ça a été évalué par un rapport parlementaire il y a quelques années, et c'est aujourd'hui, au cours des années 2000, depuis 2010, en moyenne, ça tourne autour de 70 milliards d'euros par an.
D'accord.
À peu près. Et ça, c'est tout à fait légal, mais c'est issu de multiples décisions politiques qui ont, comme on l'entend très souvent dans la presse, et le MEDEF n'arrête pas de le dire, c'est que nous sommes trop imposés, disent les grands patrons, nous sommes trop imposés, donc nous n'allons pas pouvoir investir, ce qui est tout à fait faux, parce que l'investissement des entreprises est assez constant, il n'a pas varié dans le temps, il est à 18% de la richesse créée par les entreprises, donc la valeur ajoutée ou la partie du PIB qui est créée dans les entreprises, il est toujours de 18%, ça n'a pas varié, quel que soit le niveau d'imposition, ça a ni baissé ni augmenté.
Et tu parlais tout à l'heure de cette évasion fiscale des particuliers, enfin ce qui est, mais pour les entreprises, tu disais que c'était moins facile de...
Zuckman, dans son rapport là-dessus, ne l'a estimé très globalement. Il a estimé à 50 milliards d'euros par an globalement les pertes fiscales dues à l'évasion fiscale. Mais il n'a pas, année après année, évalué les pertes fiscales des entreprises.
Donc, on n'a pas l'évolution comme sur le.
On n'a pas d'évolution. On a donc des choses assez grossières, comme pour beaucoup de pertes fiscales. On a des pertes fiscales qui sont très, très importantes. Il y a de multiples mécanismes de pertes fiscales qui sont connus, qui ont été évalués chacun d'eux, mais qui ont été évalués pour une année donnée, parce que c'est pas facile d'évaluer tout ça, ça demande beaucoup de travail. Et puis, c'est pas facile, mais aussi, il faut dire qu'il n'y a pas énormément de travaux là-dessus, parce qu'on n'a pas cherché particulièrement à savoir d'où
ça va un peu à contre-courant avec le discours officiel.
Donc, mais il y a quand même un certain nombre maintenant d'études, notamment des études parlementaires qui l'ont montré dans l'étude de fait pour préparer le budget, parce que quand on prépare un budget, même si on est en faveur de ces pertes de recettes fiscales, c'est bien de savoir à peu près où on va, d'où on vient. C'est pas fait n'importe comment. Donc il y a quand même un certain nombre d'études qui ont été faites ou de jeunes économistes qui ont travaillé dessus. Donc on a quand même quelques éléments maintenant.
D'accord. Donc tout ça nous amène à dire que la dette est illégitime. Donc qu'est-ce que ça veut dire, une dette illégitime?
Je reviens sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que quand on regarde l'impact des cadeaux fiscaux, donc depuis 2000, de l'évasion fiscale depuis 1970, de la crise économique depuis 2008, et puis depuis le début, c'est la première année où on a des statistiques un petit peu fines, c'est en 1978, en ce qui concerne les taux d'intérêt très élevés, l'effet boule de neige. Quand on modélise tout ça, l'impact sur la dette actuelle, la dette publique actuelle, et bien on arrive à dire que la totalité de la dette actuelle est due à ces quatre phénomènes, cadeaux fiscaux, évasion fiscale, crise économique due à la spéculation et les taux d'intérêt trop élevés. Donc 100%, même un petit peu plus de 100% de la dette publique est due à ces quatre phénomènes. Alors ça ne veut pas dire systématiquement que la dette est illégitime. Parce que,
elle est au moins artificielle, en fait.
Elle est artificielle, elle est construite. Ça, c'est déjà une conclusion qui est importante. Et puis, est-ce qu'elle est illégitime? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dette illégitime? Alors, bien sûr, on peut discuter, il n'y a pas de définition officielle de l'illégitimité d'une dette, même s'il y a quelques écrits quand même dans le monde là-dessus. On considère globalement et généralement qu'une dette est illégitime lorsqu'elle favorise outrancièrement une toute petite partie de la population et à l'encontre de l'intérêt général, lorsqu'elle est issue de décisions qui n'ont pas dans le sens de l'intérêt général. Alors c'est vrai qu'il faut, pour dire qu'une dette est illégitime, il faut se mettre d'accord sur l'intérêt général. Mais c'est vrai que quand on regarde les cadeaux fiscaux qui ont profité à une toute petite partie de la population, peut-être le 1% des plus riches de la population, ces cadeaux fiscaux, ce n'est pas l'intérêt général. C'est l'intérêt de quelques personne, d'une petite part de la population.
On peut faire le parallèle avec les pays africains où les dictateurs empruntaient pour des besoins personnels alors que leur population crevait la faim.
Tout à fait. Alors on n'est pas tout à fait à ce niveau parce qu'il n'y a pas de tels écarts de revenus chez nous, même si les écarts sont extraordinaires et ne font qu'augmenter. C'est vrai que les méthodes utilisées ne sont pas des méthodes dictatoriales non plus. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais c'est quand même un petit peu comparable, un petit peu du même ordre d'idée. Donc l'illégitimité, ça vient de ça, donc absence d'intérêt général ou la fraude. Alors évidemment, tout ce qui est illégal est évidemment illégitime.
Illégitime par définition.
Alors la fraude fiscale, l'évasion fiscale, la fraude sociale aussi, qui est un manque à gagner important pour la sécurité sociale. La fraude sociale, c'est essentiellement dû au travail au noir. Tout ça, ça fait partie de l'illégitimité, ça contribue à l'illégitimité de la dette publique.
D'accord. Donc, après, on peut peut-être essayer de voir comment tu trouves 100%, toi, par rapport aux 59 qui sont dans le rapport.
Moi, j'ai trouvé à peu près, alors c'est des chiffres à la louche, c'est pas la peine d'être très détaillé là-dessus, mais c'est vrai que dans le rapport qui va être publié bientôt, il y aura toutes les courbes, hein. Et il y a déjà une première étude qui est disponible sur le site d'Atacrone. Les cadeaux fiscaux font à peu près 40% du PIB, contribuent à une dette qui est de 40% du PIB. L'effet boule de neige à 25% à peu près. Alors l'effet boule de neige, il faut faire attention à cet effet parce que il dépend évidemment des intérêts pratiqués, mais il dépend aussi de ce à quoi on les applique. Donc on peut calculer un effet boule de neige sur la dette actuelle, hein, et ça c'est 25%. Mais si on réduit la dette par calcul, hein, par hypothèse, si on réduit la dette en augmentant les ressources fiscales, en annulant les cadeaux fiscaux, en annulant l'évasion fiscale, en annulant la crise économique de 2008, hein, par construction, eh bien c'est donc la dette va être diminuée uniquement par cette augmentation des recettes fiscales et sociales. Donc l'effet boule de neige va être plus faible parce qu'il sera, il y aura toujours les mêmes impacts, l'impact dû aux intérêts aux intérêts trop élevés, mais appliqué à une dette qui sera beaucoup plus faible. Donc là, elle est un petit peu plus faible. Dans ce cas-là. Et puis l'évasion fiscale, c'est 21% du PIB. La crise économique, c'est 14% du PIB. Donc ça fait des sommes très 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 importantes, hein, équivalentes à la dette actuelle. Hein. Ouais. Donc je reprends les chiffres, hein, en pourcentage de la dette publique actuelle, hein, d'après les calculs que je viens de terminer. Hein, l'évasion fiscale, c'est 23%, presque un quart de la dette publique. Les cadeaux fiscaux, c'est 43% de la dette publique actuelle. La crise depuis 2008, c'est 16%. Et les cadeaux fiscaux, c'est 21%. Et quand on fait la somme de tous ces pourcentages, on arrive à 103%. Hein, donc à peu près 100%. 100% de la dette publique actuelle est due à ces quatre mécanismes, hein, de la dette, que sont les cadeaux fiscaux, l'évasion fiscale, la crise, la perte de recettes fiscales due à la crise financière, et l'effet boule de neige. Donc c'est quatre phénomènes qui sont, disons, d'importance à peu près équivalente, pas tout à fait, hein, mais enfin du même ordre de grandeur. Même s'il y a des différences relativement importantes, le plus important, c'est quand même les cadeaux fiscaux qui fait à peu près les deux cinquièmes qui contribuent à deux cinquièmes de la dette actuelle.
D'accord. Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Parce que si finalement,
avant de regarder les solutions, hein, qui sont évidemment un point important, hein, je voudrais dire que alors ce chiffre de 100 ou 103%, il est évidemment critiquable. Hein. C'est pas à prendre pour argent comptant. Mais il y a un autre élément de
ça mérite au moins débat.
Ça met en avant, c'était le grand intérêt du rapport du collectif national, hein, c'est qu'il a mis sur la place publique et ça a été repris relativement bien par la presse, hein, y compris la presse qui est pas très favorable généralement à ce que fait Attac ou le mouvement social qui lui est proche. Ça met en avant l'idée, est-ce que la dette publique, à quoi est due la dette publique? Alors, j'ai dit qu'il y avait quatre mécanismes qui étaient à l'origine de la totalité de la dette publique française. Mais il n'y a pas que ces mécanismes, il y en a beaucoup d'autres. Hein. On a modélisé que quatre mécanismes, et quand on fait la liste de tous les mécanismes qui sont... Alors, il y a des modifications de la taxe professionnelle, l'exonération patronale de cotisations sociales, des niches fiscales qui n'ont pas été prises en compte, l'impôt sur des bénéfices sur les sociétés qui ont été baissés, qui n'ont pas été modélisés année après année, hein. Les paradis fiscaux pour les entreprises, par exemple, la fraude fiscale ou la fraude sociale qui n'a pas été modélisée. Quand on fait la somme de toutes ces pertes de recettes fiscales et sociales, de pertes de recettes pour les administrations publiques, et ça c'est issu de nombreuses études, notamment d'études de rapports parlementaires, hein, on arrive en gros à 280 milliards d'euros de pertes annuelles, à peu près 280 milliards d'euros.
C'est en plus de...
Non, c'est 280 non. milliards d'euros, donc on peut dire que ça c'est la totalité,
d'accord,
hein, des pertes de recettes publiques dues à des décisions politiques, hein, très claires. Hein. Et ça, c'est pas très précis non plus, hein. Est-ce que c'est 280, est-ce que c'est 250, est-ce que c'est 300, même est-ce que c'est 200, est-ce que c'est 400, on n'en est pas certain, parce que toutes ces évaluations sont évidemment difficiles à faire. Mais ce qui est important, c'est que de voir que, dans notre modélisation, par rapport à ces 280 milliards d'euros de pertes, on a tenu compte que de 85 milliards. Nous, on a modélisé de manière très précise, année après année, hein, l'impact de 85 milliards de pertes. Et puis, on a ajouté à ces 85 milliards de pertes fiscales les deux mécanismes qui sont l'effet boule de neige, hein, qui n'est pas pris en compte dans les 280 milliards, et puis l'impact de la crise économique et financière, hein, qui compte beaucoup, qui compte pour 77 milliards. Donc, on voit qu'on a encore pratiquement 200 milliards annuellement chaque année de pertes fiscales et sociales qui n'ont pas été prises en compte et qui s'ajoutent. Donc, sans tenir compte de ces 200 milliards de pertes annuelles, on arrive déjà à expliquer la totalité de la dette actuelle. Donc, si on tenait compte, même si c'est pas possible aujourd'hui parce qu'on n'a pas les chiffres précis, si on tenait compte de ces 200 milliards additionnels qui chaque année s'ajoutent à la dette, et on voit bien qu'il est évident, il est clair, il est net, il est incontestable que la totalité de la dette publique est due à ces phénomènes-là. Elle n'est absolument pas due, et ça c'est une conclusion hyper importante, elle n'est absolument pas due à des dépenses qui sont trop élevées, mais elle est due à des recettes hein, qui sont trop faibles et qui ont été baissées volontairement.
Alors, là où on peut se poser la question, c'est pourquoi nos gouvernements ils refusent cette analyse, que pourquoi ils ne veulent pas contester cette dette, puisque... Enfin, tu me diras, c'est eux qui ont mis en place les mesures qui font que... Mais quel intérêt de s'enfermer dans cette politique où on casse les services publics, on dépense moins pour soi-disant rembourser cette dette.
Enfin, d'une part, l'argumentation qu'on a exposée ici, elle est, je dirais pas qu'elle est nouvelle, parce que c'est vrai qu'il y a des rapports parlementaires qui l'ont dit.
Elle, CADTM, ça fait longtemps qu'ils bossent là-dessus.
CADTM le dit aussi, mais c'est quand même relativement discret. Hein. C'est vrai que c'est pas un hasard si c'est la première fois avec le rapport du collectif national sur la dette publique, c'est la première fois qu'on calcule ça de manière un petit peu sérieuse, hein, un peu modélisée. C'est la première fois qu'on ajoute, par exemple, l'impact des cadeaux fiscaux et l'effet boule de neige. Et avec ce que j'ai rajouté, l'effet de l'évasion fiscale et l'effet de la crise économique, c'est la première fois qu'on ajoute tout ça de manière et qu'on le modélise de manière précise. Donc il y a eu des explications parcellaires ici ou là, hein, tout qui assez bien faites, hein, certaines qui sont très très grossièrement faites assez grossièrement parce que c'est difficile de faire autrement, mais globalement des études globales il y en a pas eu tellement, hein, donc ça explique pas pourquoi l'État ou le Parti socialiste au pouvoir refuse de regarder ça et dit tout le contraire.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Alors pourquoi ils disent tout le contraire? Parce qu'ils sont influencés, je pense, par les gens qui ont intérêt. Alors je dis pas que c'est forcément les ministres du gouvernement qui ont personnellement intérêt, même si certains, on en a connu certains qui profitaient de la fraude fiscale. Alors, évidemment, des gens comme ça, ben, ils vont pas taper sur la, ils vont pas mettre en évidence la fraude fiscale. Ils s'en sont personnellement bénéficiaires. Et il y en a d'autres. Hein. On a vu un conseiller d'un président de la République récemment qui était un peu dans la même situation. Mmh. Hein. Il y a des commissaires européens aussi qui sont poursuivis pour fraude fiscale en Belgique. Donc il y a une partie, même si elle est faible, hein, du personnel politique qui profite personnellement de ces mécanismes-là. Mais je pense pas que ce soit la raison principale. La raison principale, c'est qu'ils ont réussi à être convaincus par ceux qui, alors eux, en profitent.
En profitent, ouais.
Et dont le représentant essentiel en France, c'est le MEDEF.
C'est le MEDEF, hein, MEDEF
ce sont les patrons, les grands patrons. C'est pas les patrons de PME, hein, qui sont concernés, mais les grands patrons. Et les propriétaires de ces grandes entreprises, eux, c'est eux qui en profitent. Mmh. C'est eux qui profitent de toutes ces pertes de recettes fiscales. Alors, ils en profitent comment? Alors, évidemment, d'abord parce qu'ils ont des... On leur baisse leurs impôts, donc ils payent moins d'impôts. Et puis, comme on leur paye moins d'impôts, on est obligé d'emprunter sur les marchés, et l'État emprunte sur les marchés à ces mêmes personnes qui ont des liquidités disponibles, puisqu'on leur a diminué leurs impôts. Donc, plutôt que d'être obligé de donner de l'argent à l'État par l'impôt, eh bien, ils le prêtent à l'État et ils se font payer pour ça. C'est quand même extraordinaire. Et donc ces gens-là en profitent. Toute la libéralisation bancaire, par exemple, leur a profité aussi parce qu'elle leur a permis de spéculer. Mm-hmm. La libéralisation des mouvements de capitaux, qui est absolue dans l'Union européenne aujourd'hui, et au sein de l'Union européenne, et entre l'Union européenne et les pays extérieurs à l'Union, eh bien, profite à ces gens-là, ça leur permet de spéculer, donc de gagner beaucoup d'argent, alors au détriment eh bien, de tous les autres,
de
tout le monde, hein, ils prennent un petit peu d'argent, le chômage est, le chômage augmente, etc., donc il y a des gens qui le payent, ça.
On se fait une petite pause.
C'est puissant, c'est filou. La gadiga des connards de toutes sortes. Aujourd'hui, il ne faut pas me brancher. La gadiga des, le diable vous emporte. Il est grand temps pour vous de raccrocher. La gadiga des, franchement, ça soulage. Et ça t'empêche de devenir fou. La gadiga des, tant pis si c'est pas sage. Il ne fallait pas nous pousser à bout. Il ne fallait pas nous pousser à bout. Nous pousser à bout. Nous pousser à bout. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au boulet. Regarde-le comme il bouge, dans la rue ensoleillée. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au boulet. Passe-moi mon drapeau rouge, et le noir tant que tu y es. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au boulet. Regarde-le comme il bouge, dans la rue ensoleillée. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au boulet. Passe-moi mon drapeau rouge, et le noir tant que tu y es. Et le noir tant que tu y es. Et le noir tant que tu y es. Et le noir tant que tu y es.
Ouais, mes ben picho quand même.
Encore un petit quart d'heure à vous parler de la dette. Donc on était juste avant la pause là sur le pourquoi de cette emprise du libéralisme. Alors tu veux rajouter quelque chose, Robert là?
Oui, c'est une grande partie, la majeure partie sans doute de la droite, mais peut-être pas toute, hein, et une bonne partie de ce qu'on appelait la gauche ou du parti autoproclamé socialiste, hein, qui ont été contaminés par l'idéologie néolibérale. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, contaminé par l'idéologie libérale? Ça veut dire que ils considèrent, comme les néolibéraux, que la liberté d'entreprendre, c'est l'alpha et l'oméga de la richesse.
C'est le TINA de Thatcher, il n'y a pas d'alternative.
Solution. Ouais. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire laisser faire les plus riches et abandonner toute régulation ou le plus possible de régulation de l'espace public pour laisser le jeu du marché libre. C'est-à-dire laisser chacun eh bien, faire laisser le renard libre dans le poulailler. Hein, mm-hmm. Avec cette image me semble assez bonne. Alors que, au contraire, l'idéologie, disons, libératrice, et qu'on appelle depuis longtemps de gauche, hein, ou émancipatrice, considère qu'il faut réguler, c'est-à-dire que nous devons, que l'ensemble des citoyens doivent s'entendre ensemble et se mettre d'accord sur un certain nombre de règles qui font notre, qui sont la base de notre vivre ensemble. Et ces gens-là considèrent que ces règles-là sont inutiles. Hein, alors c'est vrai qu'elles sont inutiles pour eux, c'est-à-dire elles sont inutiles, elles sont négatives pour l'enrichissement personnel des uns et des autres, ça c'est clair. Mais pour l'enrichissement collectif, hein, de nous tous, elles sont tout à fait positives. Donc ceux qui veulent absolument gagner beaucoup plus que les autres, quel que soit le prix qu'en payent ces autres, eh bien évidemment sont pour l'annulation ou l'éviction du plus de barrières possibles, du plus de règles possibles, d'avoir un État qui soit le plus faible possible, qui serve pratiquement à rien. Hein, l'État serait juste là pour faire la police, l'armée, et puis assurer un minimum d'honnêteté peut-être dans les transactions, mais pas plus. Et puis après ça, on laisse le jeu du marché jouer, et tout va être dans le meilleur des mondes. On voit d'ailleurs le résultat de cette politique depuis les années 80, c'est que nous avons un nombre de chômeurs très très important, qui ne baisse absolument pas. Donc on voit bien ce que ça, c'est qu'on a, on voit que, eh bien, que la société se coupe en deux. On arrive à une situation où on est à peu près comme au XVIIIe siècle aujourd'hui, donc avant la Révolution française, où on a une petite minorité qui vit très 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 bien et de mieux en mieux, qui a des revenus qui augmentent, qui explosent. On a une majorité, une 50% de la population qui voit ses revenus stagner à peu près, et puis 30-40% de la population qui voit ses revenus chuter. Hein, donc c'est les gens, eux, qui payent le plus. Mais il y a une petite partie de la population, hein, ceux qui soutiennent toutes ces mesures qui ont été prises en compte, qui vivent très bien et qui ont des revenus tout à fait extraordinaires, des revenus extraordinaires qui se comptent en millions d'euros par mois, et surtout avec des taux de progression qui sont très 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 importants. Donc pour eux, il n'y a pas de crise. La crise n'existe pas pour eux. Il suffit d'ailleurs de voir à Lyon comme ailleurs, et encore plus dans les grandes capitales, le commerce de luxe marche très 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 bien. Il n'y a aucun problème. Le commerce de luxe n'a jamais si bien marché. Hein. C'est plutôt le commerce... pour Monsieur Tout-le-Monde, qui marche moins bien. Donc cette idéologie-là a été... qui n'est pas une idéologie nouvelle, hein, c'est de tout temps. Hein, il s'est agi de savoir dans quelle mesure, dans quelle manière on partageait les bénéfices du travail fait par les uns et par les autres. Est-ce qu'on le partage de manière égalitaire ou relativement égalitaire entre tous les citoyens, ou est-ce qu'on le laisse les jeux, la force jouer, que ce soit la force du marché, la force des plus riches, est-ce qu'on laisse ces forces-là jouer toutes seules, donc au bénéfice, toujours au bénéfice, hein, des plus puissants et des plus riches. Hein, la loi est toujours au bénéfice des plus pauvres, hein, des moins puissants, et l'absence de loi, c'est toujours au bénéfice des plus puissants et des plus riches. Donc nos gouvernants, notamment ceux qui se prétendaient et qui se prétendent encore de gauche, ont été impactés, hein, par cette idéologie qui date, qui est ancienne, mais qui a été revigorée grâce à Thatcher dans les années 80 et Reagan, et puis Tony Blair, idéologiquement plus proche du parti dit socialiste. Ils ont été petit à petit contaminés, hein, par... Alors cette contamination se fait aussi par le biais des lobbies, hein. Il faut voir que les ministères, alors c'est le cas de Bruxelles, hein, des commissions, des commissaires européens à Bruxelles, mais c'est le cas aussi des ministres en France, hein, sont entourés de lobbies, d'ailleurs font appel à des conseillers techniques qui sont issus de ces lobbies pour une grande part, et ces lobbies, et ben les lobbies font du très bon travail, hein, c'est des gens qui sont
efficaces,
qui sont très efficaces parce qu'ils ont énormément d'argent, l'argent qui vient de ceux qui en ont, évidemment, c'est pas ATTAC ou les syndicats qui ont des lobbies très puissants. Hein, mais les lobbies les plus puissants, eh ben, sont proches du MEDEF, hein, par exemple. Hein. Donc, ils font faire des études qui sont très convaincantes, même si elles sont basées sur des hypothèses tout à fait erronées, et ces gens-là se laissent convaincre. Hein. Alors, on voit quand même que aujourd'hui, avec la la fronde d'un certain nombre de députés du parti dit socialiste. Bon, il y a quand même des gens proches du gouvernement, ou très proches du gouvernement, puisqu'ils appartiennent au parti du gouvernement, qui quand même se rendent compte que ça, on ne peut pas quand même continuer comme ça.
On peut dire que les travaux qui sont faits dans ces collectifs commencent à apporter un peu leurs fruits, en fait.
Oui, j'espère, quand même. C'est vrai qu'il faut... Peut-être qu'on aurait dû le faire plus tôt, parce qu'on aurait pu le faire, a priori, plus tôt. Hein. C'est vrai qu'il faut mettre de manière en évidence, et de manière claire et indiscutable, mettre en évidence toutes ces réalités.
Alors justement, dans ce rapport, là, il y a un chapitre enfin qui pose la question, mais qui doit payer la facture ? Quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour...
Alors, il y a beaucoup de solutions. Alors d'abord, quand on parle d'illégitimité de la dette, si une dette est illégitime, on peut penser qu'on peut l'annuler ou l'annuler en partie. Alors l'annulation des dettes publiques, c'est extraordinairement fréquent dans l'histoire du monde. Hein. Il y a un livre qui est paru l'an passé qui s'appelle La dette, je crois, un gros livre d'un économiste américain qui travaille en Angleterre, qui l'a montré très très bien. C'est que ça a toujours historiquement, et depuis des milliers d'années, mais y compris au cours des derniers siècles et des dernières décennies, il y a eu des milliers et des milliers d'annulations de dettes publiques. C'est tout à fait, ça apparaît.
Récemment, on a l'exemple de l'Argentine ou d'Équateur.
On a eu l'Équateur qui a annulé une bonne partie de sa dette car il l'a considérée illégitime après un audit public de sa dette. Il y a la Russie, il y a la Grèce récemment. Il y a l'Islande, etc., qui ont annulé une partie de leur dette. Donc, même récemment, il y a eu énormément d'annulations de dettes publiques. Alors, évidemment, les gens, les créanciers, c'est-à-dire ceux qui possèdent, qui ont prêté, qui possèdent la dette, ne parlent pas tellement d'annulation de la dette parce que la dette leur permet de gagner de l'argent chaque année encore plus. Donc, c'est une source de revenus, même s'ils en ont déjà beaucoup, on n'en a jamais assez. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on mette en évidence que une annulation de dette, c'est tout à fait courant et tout à fait normal, et surtout lorsqu'elle est illégitime. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, qui est assez proche, c'est peut-être de ne pas tout annuler, mais au moins d'allonger substantiellement les durées de remboursement ou plafonner les taux d'intérêt. On pourrait très bien... Alors, pour plafonner les taux d'intérêt, il y a une méthode pour plafonner les taux d'intérêt qui était utilisée en France et qui est utilisée encore dans la plupart des pays du monde, c'est de permettre à l'État d'emprunter auprès de la Banque centrale. Ce qui est interdit par le traité de Lisbonne, par le traité de Maastricht, et ça a été repris par le traité de Lisbonne. Donc l'État français ou n'importe quel État de l'Union européenne n'a pas le droit d'emprunter auprès de sa banque centrale ou de la banque centrale européenne. Alors quel est l'intérêt d'emprunter auprès de la banque centrale, de pouvoir emprunter ? C'est pas tellement qu'on emprunte. Historiquement, il y a eu relativement peu d'emprunts en France auprès de la banque centrale, la Banque de France. Il y en a eu relativement peu, mais c'était possible. Mais il y en a quand même des emprunts. Par exemple, aujourd'hui, en Grande-Bretagne, il y a, je crois, 20% de la dette britannique qui a été faite auprès de la banque britannique, la banque publique britannique. Aux États-Unis, auprès de la Fed, c'est 30%. Mais ça permet, ça dit aux marchés financiers, ceux à qui on emprunte l'essentiel de la dette, c'est-à-dire, si vous nous faites des taux d'intérêt trop élevés,
on peut aller voir la banque.
Eh bien, je vais voir ma banque centrale. Donc ça, c'est un moyen très très puissant pour limiter les taux d'intérêt, alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que les créanciers limitent les taux d'intérêt, puisqu'on est obligé de leur emprunter.
Oui, c'est un marché captif.
C'est un marché captif, donc ils mettent les taux d'intérêt qu'ils veulent. Donc ça, c'est une mesure très très importante. On a une autre mesure aussi qui est, par exemple, on pourrait imaginer un impôt exceptionnel sur les gens les plus riches, sur les 1% les plus riches, ou les 5% les plus riches, ou les 10% les plus riches, pour rembourser la dette tout de suite. Cette petite partie de la population, ce sont les gens qui profitent des baisses d'impôts, etc., qui ont énormément profité de toutes ces pertes de recettes fiscales et sociales. On peut considérer que c'est à eux de payer par un impôt exceptionnel. Alors on peut aussi, il y a tout ce qui concerne les banques, on peut obliger les banques à souscrire des emprunts ou une partie des emprunts publics. Alors ça, c'était très courant en France jusqu'à il y a peu. Ça se passe dans des tas d'autres pays dans le monde. Donc historiquement, ça a été une méthode très classique. On oblige les banques, pour avoir le droit d'être banque en France, on oblige qu'il y ait une partie de leurs fonds qui soient prêtés à l'État, à des taux déterminés par l'État. On peut aussi, dans le même ordre d'idée, imaginer un emprunt forcé auprès des particuliers les plus riches, par exemple. Ce qui est une mesure un petit peu proche. Alors, il y a tout ce qui concerne les impôts. Alors, on a beaucoup parlé des pertes de recettes fiscales, des cadeaux fiscaux, de l'évasion fiscale. Et ben, ça, il faut le stopper. Il faut le stopper. Stopper les cadeaux fiscaux, ça veut dire revenir à des taux d'imposition qui soient beaucoup plus égalitaires et qui ne favorisent pas outrageusement, comme c'est le cas aujourd'hui, les gens les plus riches, mais revenir au rôle de l'impôt et de, pas seulement des impôts sur le revenu, mais y compris la TVA, etc., de tous les impôts, qui est un moyen de redistribuer les revenus. Hein. Donc on doit redistribuer, donc clairement, l'impôt et toutes les taxes servent principalement à redistribuer des plus riches aux plus pauvres. Hein. Et donc il faut accentuer cet effet redistributif qui a été énormément baissé, diminué au cours des années précédentes. Donc ça passe par une réforme fiscale qui soit beaucoup plus équitable qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Il y a aussi une lutte contre les paradis fiscaux.
Alors,
qui
tout
sont
ce qui est paradis fiscaux, la lutte pour les paradis fiscaux,
plus effective.
C'est aussi par, alors ça c'est en train d'être mis en place, par l'abandon du secret bancaire. Mmh. Le secret bancaire, ça permet l'évasion fiscale. Le secret bancaire, donc ça permet à n'importe qui a beaucoup d'argent, en payant un petit peu, de placer ses revenus à l'étranger, de ne pas payer d'impôts sur ses revenus. Donc ça, c'est tout à fait, et ça, c'est illégal, ça doit être combattu. Ça doit être combattu, donc, par l'abandon du secret bancaire, mais ça doit être aussi, la fraude fiscale ne se réduit pas à ça. Ça veut dire aussi qu'il faut embaucher des inspecteurs des impôts, parce que ce sont les inspecteurs des impôts qui combattent la fraude fiscale. La fraude fiscale se combat pas simplement par des lois, il faut des gens qui fassent respecter la loi. Hein, donc c'est quand même tout à fait étonnant que le gouvernement actuel n'embauche pas énormément d'inspecteurs fiscaux.
Oui, mais il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Donc.
Il faut réduire le nombre de fonctionnaires, mais ça, c'est des fonctionnaires qui rapportent énormément à l'État. Hein, ils rapportent 10 ou 100 fois ce qu'ils coûtent à l'État. Hein, donc c'est extrêmement... C'est clair et net, et tout le monde est d'accord là-dessus, qu'un inspecteur des impôts, c'est extrêmement bénéfique pour les finances de l'État. Donc il faut lutter contre l'exode fiscal, les paradis fiscaux, le secret bancaire. Il y a aussi, on peut penser, tout ce qui est sur les banques, c'est-à-dire nationaliser, ou plutôt que nationaliser,
contrôler,
ouais. Socialiser les ouais. banques. Hein. Ou du moins socialiser une partie des banques. Socialiser, ça veut dire de remplacer des banques qui appartiennent et qui sont dont les décisions sont prises par les propriétaires privés, donc des personnes privées. Les socialiser, ça veut dire que ces banques appartiennent à la collectivité publique, mais c'est pas l'État qui décide, mais ça peut être... les collectivités locales, l'État, le Parlement, des associations d'usagers, etc., des syndicats, le mouvement social, hein, qui sont chargés de gérer, hein, ou de contrôler plus exactement, ces banques socialisées. Donc c'est la société, et non pas seulement l'État, hein, qui...
Ça implique aussi un changement d'état d'esprit. Quand on voit comment les mutuelles qui sont censées être gérées par les gens, comment c'est devenu... les gens se désintéressent un peu de ces gestions. Il faudrait que ça revienne
Oui, alors, Alors, c'est vrai que c'est une réalité. C'est vrai que, personnellement, rares sont les gens qui veulent s'investir dans ce travail-là, que c'est un travail. Mais il y a quand même des corps constitués, ouais. que ce soit le Parlement, que ce soit les ouais. syndicats ou des grosses associations qui peuvent jouer ce rôle aussi. Hein. Donc c'est pas forcément des particuliers, hein, mais ça peut être des collectifs de particuliers, hein, des grosses associations, ouais. des syndicats.
Donc ça ne soit pas géré ouais. que par du privé, mais par des...
Ça ne doit pas être ni ouais. que par l'État, ouais. hein, ni, et alors absolument pas que par le privé, hein, parce que le privé c'est au bénéfice du privé. Hein. Et puis il y a une autre mesure qui est tout à fait intéressante, c'est faire un cadastre de la dette. On n'a pas parlé, mais la dette publique, on ne sait pas qui sont nos créanciers. On n'a pas le droit, par la loi aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire quelles sont les personnes, les banques, les établissements qui sont propriétaires de la dette publique française. Donc on ne sait pas à qui on doit de l'argent. Et ça, c'est tout à fait inadmissible. Peut-être qu'on se rendrait compte qu'on doit de l'argent à des gens pas très clair, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Il faut avoir la transparence, on peut pas demander aux gens de payer sans savoir à qui on doit payer, pourquoi on a payé, quelles sont les raisons de ce qu'on doit payer. Donc il faut faire la transparence sur la dette.
Bien, on arrive au bout de notre émission, donc je pense qu'on va arrêter. Je voudrais remercier Robert et dire que donc il y a un collectif au niveau régional qui s'est créé. Donc il y a un site web, je vais vous donner l'adresse. Donc c'est audit-citoyens69.org. Et l'essentiel du travail de Robert est sur le site d'Atacrone. Donc là l'adresse c'est local.atac avec deux t.org /Rhône. Donc vous retrouvez ici tous les documents, dont le rapport du collectif national dont on vous a parlé. Très bien, bon, on a fini pour cette année. On va vous souhaiter une bonne vacance et on vous retrouve en septembre. Au revoir.